Démocratie aux prises avec le néo-fondamentalisme. Les démocraties dégénérantes annoncent presque toujours des dictatures. Napoléon, Lénine, Hitler. Depuis que le concept est né en Grèce, les démocraties croissent dans l'euphorie et fleurissent le temps limité de l'illusion égalitaire, facilitant dans la foulée l'accès au pouvoir suprême des assoiffés de puissance et des délinquants en tout genre. Le communisme excelle dans ce domaine. Les méthodes sont inchangées. Il s'agit d'accéder et de se maintenir au pouvoir par tous les moyens, à grand renfort de formules sacrées, comme la souveraineté populaire, la lutte contre l'impérialisme, l'égalité de tous les peuples, suffisantes pour légitimer l'armement massif et les chasses incessantes aux sorcières, digne des purges de 1945, car la révolution est un état de guerre permanent. Si les armes diffèrent des combats classiques, elles n'en sont pas moins meurtrières. Il s'agit de travailler sur l'émotionnel et la démagogie. Autrement dit, on perfectionne le nouvel art martial qui consiste à manipuler les sentiments et la dialectique. Le résultat est plus subtil, car il conditionne et soumet l'esprit à un maître, un quelconque dictateur à la tête d'un pseudo-gouvernement populaire, qui prétend servir nos intérêts, et plus performant, car il n'existe plus par définition, d'arguments contraires à ceux dont il est devenu logique et bienfaisant de se soumettre. Les esprits ainsi faussés s'en remettent aveuglément aux illusions verbales mythiques qui, comme les contes de fées, éloignent leurs adeptes des réalités austères de notre éphémère existence. Hugo Chavez exploite ainsi habilement l'héritage de Fidel Castro, en redonnant une nouvelle jeunesse au castrisme vieilli, qui semblait vouloir disparaître avec son fondateur, en l'accommodant à la sauce Simon Bolivar, plus digeste et populaire que le trop usé concept communisme, défiguré par les excès de génocide du XXe siècle. Le communisme n'est pas mort. Il s'est seulement adapté à des circonstances nouvelles. La méthode reste la même, qui consiste à soumettre tous les peuples à une dictature laïque et matérialiste. L'ennemi est toujours Dieu. Le mythe castriste arbore maintenant l'appellation de révolution bolivarienne, en hommage au libérateur Simon Bolivar. Après avoir acquis le concours des diverses organisations terroristes régionales, dont les FARC, Hugo Chavez y associe maintenant astucieusement les Amérindiens. En effet, l'idée est de libérer les Amérindiens exploités par les religions bourgeoises imposées par l'impérialisme occidental. En fait, et dit autrement, il s'agit d'utiliser les Amérindiens pour étendre la révolution dans un continent sud-américain jusqu'alors essentiellement catholique. Pour ce faire, Hugo Chavez a expulsé les évangélistes, qui les christianisaient, et les a remplacés par des imams iraniens, chargés de les islamiser. On a ainsi pu photographier des femmes amérindiennes voilées et des hommes manipulés des kalachnikovs, les épaules bardées d'écharpes de munitions, reflétant un visage de l'islam déjà connu aujourd'hui sous d'autres hémisphères. C'est une étape. Une autre étape est le jeu des alliances diplomatiques qu'il convient d'établir pour devenir intouchable. Après s'être assuré, avec ses confrères équatoriens et boliviens, de se maintenir définitivement au pouvoir, en manipulant peuple et constitution, pour s'assurer une légitimité permanente, des alliances subtiles ont été signées avec des partenaires puissants, associant des intérêts communs. C'est ainsi que Hugo Chavez, titulaire du prix Kadhafi des droits de l'homme de la Libye, et docteur honoris causa de l'université syrienne de Damas, a signé une alliance économique et militaire avec l'Iran, et que divers accords se concluent, ou sont en bonne voie de le faire, avec la Libye, la Syrie, la Russie et la Chine. C'est donc tout naturellement que les pays bolivariens ont retiré leur représentation diplomatique à Jérusalem lors du conflit israélo-palestinien, en janvier 2009. Il apparaît ainsi clairement que l'affaire Bettencourt, outre qu'elle aura été une grande farce, qui aura berné les Français et son président, se sera révélée être un désastre pour la politique étrangère française. Elle nous aura obligés à nous tourner vers le Venezuela pour nous affubler d'un ami encombrant avec lequel nous n'avons aucun intérêt et dont il faut maintenant se débarrasser pour ses accointances avec le terrorisme mondial. D'autre part, Ingrid Bettencourt semble manger à tous les râteliers. Elle déclarait dernièrement, lors de sa visite en Bolivie, « L'opposition doit savoir apprécier la démocratie actuelle », provoquant l'indignation des Boliviens qui répondaient outrés « Mais nous n'avons plus de démocratie. La liberté de pensée et d'action sont supprimées. Les arrestations arbitraires. La presse est humiliée et bafouée. Les opposants au gouvernement sont traqués. Vous appelez ça démocratie, Madame Bettencourt ?» Elle a dit aussi « Evo Morales a souffert et a été humilié, tous les deux, nous savons. » Mon Dieu, que c'est cet être sans cœur, moqueur, ironique, menteur, qui emmène ce si beau pays dans un abîme sans fond, lui et son équipe de criminels. Ils détruisent toute une structure que les citoyens ont mis si longtemps à construire. Alors, Madame Bettencourt, avant de parler, modérez vos discours et informez-vous de son origine. Quintana Rada Muñoz, Le Point, 14 décembre 2008. Les régimes totalitaires, qu'ils soient musulmans ou communistes déguisés, ont pour des raisons différentes des intérêts provisoirement communs. La chute de la riche civilisation judéo-chrétienne. Le Coran s'accommode fort bien de cette alliance. On peut en effet y lire. Dans la lutte contre l'infidèle, on pourra s'allier à des nations étrangères qui servent accidentellement notre objectif unique, qui est leur conversion ou leur mort. Sourate 9, 5. Les riches démocraties européennes, par contre, en renonçant à leur devoir de défendre leur tradition et d'honorer leur histoire, outre le mépris qu'elles inspirent, facilitent bien la tâche de ses ennemis. Elles sont infiltrées de tous côtés et torpillées, même directement, par les gouvernements qui les représentent, au nom des vieilles idéologies humanistes utopiques, droits de l'homiste et libérales, survivantes du XVIIIe siècle, se retrouvant volontairement et bêtement prisonnières de ses propres principes. Le fondamentalisme musulman peut s'y développer en toute quiétude, jusqu'à ce que le nombre d'adeptes suffisants soit atteint pour ensuite exiger légitimement l'application d'un régime politique conforme aux normes définies par le Coran. Dans la pratique, la démocratie est inconnue dans les républiques islamistes, comme dans les républiques populaires communistes. Le concept n'est d'ailleurs connu et utilisé dans ces dernières que dans les exhalaisons verbales démagogiques, hiératiques, publicitaires. Quant aux démocraties, présentant plus de résistance à leurs prédateurs, le terrorisme mondial islamo-communiste est toujours là, pour remettre les pendules à l'heure. On comprend ainsi sans peine que le dirigeant du groupe terroriste Hamas en exil, Khaled Meshal, ait pu remercier l'Iran, nation alliée du Venezuela, pour son appui à la cause islamiste, préalablement chauffée au rouge par les frères musulmans sur la terre de Gaza. Si le capitalisme mondial venait à s'effondrer dans les mois qui viennent, une accentuation du conflit pourrait compromettre la paix dans le reste du monde et hâter la disparition d'une civilisation en décomposition avancée. Dans le vieux continent chrétien, on s'est empressé de renier tout vestige de la civilisation chrétienne qui a fait sa splendeur jadis. On préfère même aujourd'hui détruire les vieilles églises plutôt que de les restaurer. On ne risque donc pas d'y trouver une résurgence chrétienne ou nationale, comme en d'autres temps et circonstances. On en a vu naturellement s'élever contre l'occupant nazi ou contre l'envahisseur anglais sous Charles VII. Dans la crise financière qui secoue la France et les autres pays européens, aujourd'hui, les immigrés commencent à retourner vers leur pays d'origine, prouvant de ce fait qu'ils ne sont jamais intégrés à notre pays. De nombreux cerveaux marocains cherchent à se recaser dans leur royaume d'origine, actuellement en pleine expansion économique. Si la crise économique s'aggravait en Europe, les franco-gaulois pourront-ils, à charge de revanche, trouver gîte et travail dans les pays d'origine de leurs hôtes d'hier? Rien n'est moins sûr. C'est du moins la réserve à laquelle nous invite le nouveau roi des rois, Muammar Kadhafi, qui, à peine élu à la tête de l'Union africaine, a bien insisté sur la nécessité de pousser l'Afrique en avant vers les États-Unis d'Afrique, sous-entendu de faire front à l'influence européenne. Le célèbre spécialiste Bernard Lewis assure que l'Europe sera islamique à la fin de ce siècle. Elle ne sera donc plus un contrepoids pour les États-Unis, qui resteront avec la Chine, l'Inde et peut-être la Russie reconstituée, les seules grandes puissances de demain. La Rassen, 2 mai 2008. Il n'y a jamais eu de démocratie qui ne se soit suicidée, affirmait Samuel Adams, discours 1776. George Eric Wolfe, Bogota, le 7 février 2009.